Europe 1.
Avant de vous raconter cette histoire, il faut d'abord que je vous présente la bête, l'Amokokadis, un pétrolier de 334 mètres de long et 51 mètres de large. C'est ce qu'on appelle un super tanker. Il appartient à la compagnie américaine Amoco, mais il navigue sous pavillon du Liberia. C'est un bateau presque neuf, 4 ans. Pour un pétrolier, c'est rien du tout. Dans ses soutes, il emporte 220 000 tonnes de pétrole brut. Il les a chargées dans le golfe Persique. Il doit les livrer à la Shell à Rotterdam, aux Pays-Bas. Voilà ce qui va nous tomber dessus. Le jour du drame, le matin du 16 mars 78, c'est la tempête. Le vent souffle à 100 km/h. Les vagues font 8 mètres de haut. Et l'Amokokadis se trouve au large du Finistère, à 16 km de l'île d'Ouessant. Il est 9h10. Le capitaine Pasquale Bardari ordonne de virer au nord-ouest pour entrer dans la Manche.
Cap au 45.
45, bien reçu.
Mais quelques secondes plus tard...
Capitaine, le gouvernail ne répond plus.
Répétez.
La barre ne répond plus, capitaine.
Ok, stoppez les machines. Envoyez un message de sécurité TTT et précisez « Tenez-vous au large, avarie de gouvernail ». Le message TTT est le premier degré dans l'échelle des incidents en mer. Il est capté à terre par la station de surveillance Radio Conquet à la pointe du Finistère. Le capitaine envoie tout de suite des mécanos inspecter le fameux gouvernail. Et quand ils arrivent à l'arrière du pétrolier, ils découvrent une mare d'huile.
Putain ! C'est le distributeur hydraulique du gouvernail. Il y a une fuite.
Les mécanos tentent une réparation et soudain, une soupape explose, un geyser d'huile. Et à partir de ce moment-là, l'énorme gouvernail de 110 tonnes est hors service. Il est comme la queue d'un poisson fou. L'Amokokadis ne peut plus se diriger et dans une mer démontée, c'est une sale nouvelle. À 11h20, le capitaine Bardari envoie un nouveau message.
Amokokadis au Conquet. Amokokadis au Conquet. Avarie de gouvernail, demandons l'assistance de remorqueurs. Navire en pleine charge. Je répète, navire en pleine charge.
Le Conquet décide alors de dérouter un remorqueur allemand, le Pacifique, qui se trouve à ce moment-là à environ 25 km de l'Amokokadis. Ils mettent une heure pour arriver sur zone. Et là, comme toujours, il utilise un fusil pour lancer une amarre au pétrolier. Ça y est, le pétrolier est accroché. Et maintenant, il faut tirer. Tirer vers le large, tirer vers l'ouest, l'éloigner des côtes à tout prix, dans une mer démontée avec des vents à 100 km/h. La bataille dure des heures, mais à 16h18 exactement, la mare se rompt. Et à partir de ce moment-là, l'Amokokadis redevient une coquille de noix livrée à elle-même au large de la Bretagne. Une coquille qui, poussée par les vents, par les vagues, par les courants, dérive inexorablement vers la côte du Léon. La hantise des marins depuis des siècles, les cailloux de la côte du Léon. Le capitaine Bardari tente de jeter l'ancre, l'ancre n'accroche pas. Le remorqueur essaye plusieurs fois de lui larguer une nouvelle amarre et à 20h16, ouf, ça marche. Le Pacifique tire, 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 rien à faire. L'Amoco continue de dériver vers les cailloux. À 21h04, un premier rocher entaille la coque du pétrolier, comme une boîte de conserve. Et le Pacifique tire, tire et tire toujours. À 21h43, deuxième coup de scalpel dans la coque. Les cuves de pétrole sont maintenant percées. Le mazout commence à s'échapper. Et à 20h12, le câble qui relie le pétrolier au remorqueur casse à nouveau. Il n'y a plus rien à espérer. Et l'Amokokadis va s'échouer sur les rochers, le nez face à la Bretagne. À environ 2 kilomètres de la côte, et sous l'effet des vagues, il se déchire, il se coupe en deux, l'arrière s'enfonce, le pétrole commence à s'écouler. Le début d'un cauchemar.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire de l'Amoco Cadiz, du nom de ce pétrolier américain qui, le 16 mars 78, s'échoue à 2 km des côtes du Finistère et laisse échapper la totalité de sa cargaison de pétrole brut, soit 220 000 tonnes. Une histoire que nous allons débriefer tout à l'heure avec l'avocat Christian Huglot qui a mené, après la marée noire, le combat des communes bretonnes contre l'armateur du navire, Amoco. Nous en étions au tout début. En fin de matinée, l'Amoco Cadiz connaît une panne de gouvernail. Les courants l'entraînent vers la côte, plusieurs tentatives de remorquage échouent. Et à 20h12, le pétrolier vient s'éventrer sur les rochers, face aux côtes du Léon. Alphonse Arzel est le maire de Ploudalmézo. Et donc le maire de Port-Sal, la station balnéaire qui se trouve juste en face de l'Amoco Cadiz. Il est déjà au Plumard, son adjoint le prévient.
Alphonse, le Conquet m'a appelé. Un pétrolier s'est échoué à 1 mille d'ici. Les cuves sont éventrées, il y a 220 000 tonnes de brut à l'intérieur. Ça nous arrive dessus. Le pétrolier, je le vois de chez moi.
Bon sang, ça recommence.
Ça va être la catastrophe, Alphonse.
Et là, ni une ni deux, Alphonse Arzel saute dans ses bottes, il grimpe dans sa voiture et il fonce jusqu'à la dune qui domine la baie. Et il l'aperçoit dans la nuit. Il le voit très bien au loin grâce au projecteur du remorqueur. Il sent l'odeur aussi, tout de suite, épouvantable. Et il aperçoit les deux hélicoptères super frelons de la marine qui ont commencé à élitreuiller un par un les 43 marins du navire. Au lever du jour, les journalistes racontent en direct.
Nous sommes à quelques 100 mètres de l'Amoco Cadiz. Et le spectacle est vraiment très impressionnant, je vous assure. On entend des bruits sinistres qui se dégagent du bateau par les vagues. Vous voyez ma main. Si je plonge ma main davantage, il en ressort du pétrole. Je crois qu'il y a 30, 40, 50 centimètres. Je ne sais pas exactement combien il peut y avoir de pétrole ici.
Au JT, on montre des goélands morts, englués de pétrole noir. Les journalistes les tiennent par le bout des ailes et les brandissent devant la caméra. Et le goéland devient l'emblème de cette catastrophe. Et puis arrivent les politiques. Michel Dornano est à la fois ministre de la Culture et de l'Environnement. Étonnant, il vient raconter des blagues aux journalistes.
Nous utiliserons notamment des barrages. Ces barrages ne permettent pas d'arrêter le pétrole, mais de le dévier. Mais nous utiliserons des absorbants, c'est-à-dire un produit qui est fabriqué en France spécialement pour ça et qui permet d'agglomérer le pétrole et puis ensuite de le ramasser.
Autrement dit, on va appliquer le plan Paul Marmer. Une frégate de la marine vient projeter les fameux absorbants et dérouler de gros boudins rouges. Dérisoire! Alphonse Arzel, le maire de Ploudalmézo, est furax.
Faudrait de quoi pomper, filtrer, stocker.
Mais avec quoi? Comment? Les services de l'équipement n'ont pas le début de la queue d'un matériel adapté. Alors quand le lendemain, le Premier ministre Raymond Barre vient faire l'état des lieux, il en prend pour son grade.
Monsieur, ce qui m'intéresse, ce sont les marins, ce sont les pêcheurs.
Vous n'avez rien fait.
Comment?
Le gouvernement n'a rien fait.
Toutes les mesures ont été prises. Voyons, messieurs, je suis venu ici étudier sur place les problèmes qui se posaient, vous dire que les indemnisations seront accordées et ces indemnisations seront justes.
À un moment, de petits rigolos réussissent même à couvrir la tête de Barre avec un drapeau breton. Un élément de contexte tout de même, pour expliquer cette excitation politique. On est pile entre les deux tours des législatives de 78. Raymond Barre joue sa peau à la fin de la semaine. Il va la sauver, je vous le dis tout de suite. Plus qu'il ne sauvera les côtes bretonnes de l'enfer.
L'odeur de mazout devient de plus en plus forte et dans les rues on patauge dans le pétrole répandu par le pompage effectué au bord de la mer. Le goémon, le poisson, les oiseaux, le rivage, tout est mort, sale, détruit. Le mazout est partout. Un retraité m'a dit qu'après la pluie d'hier, la pelouse devant sa maison était irisée par le pétrole déposé par les embruns. Un cultivateur a trouvé du mazout sur ses choux-fleurs. Tous les jours, on découvre de nouveaux méfaits de cette marée noire.
Alors, après le plan Polmar-Mer, on déclenche le plan Polmar-Terre. Mais les moyens sont rikiki. 15 camions de vidage, 10 pompes, 30 camions citernes gros porteurs et 250 militaires, mais sans aucun matériel. Ils débarquent avec leurs bites et leurs couteaux. 4 jours après la catastrophe, les plans Polmar, Terre, Mer et Saint-Esprit n'ont pu avaler que 1000 tonnes de mazout. Dans les cuves de la Moco Cadiz, il y en avait 200 fois plus. Et le pire est à venir. Au 7e jour, tempête. Au 9e jour, grande marée. Et au bout de 10 jours, il faut être lucide. On n'arrivera pas à pomper le pétrole. Il faut se résoudre à le voir déferler sur tout le nord de la Bretagne. 300 kilomètres de côte, du goulet de Brest jusqu'à la baie de Saint-Brieuc. Un ruban de pétrole d'un bout à l'autre, les cuves de la Moco Cadiz sont vides. Et maintenant, ben, y a plus qu'à nettoyer. Les paysans du coin s'y collent les premiers. Ils déboulent avec leurs tracteurs et leurs épandeurs à purin. Et c'est pas fait pour ça, mais ça marche du tonnerre. Et puis l'État se réveille et envoie 2000 soldats. Et puis les gens, les Bretons, une armée de cirés jaunes avec leurs bottes, leurs pelles, leurs seaux, leurs poubelles. Ils frottent, ils grattent le pétrole avec leurs mains et il faut recommencer à chaque marée.
Avec des produits, des détergents et tout, qui vont abîmer le fond, qui vont abîmer les planctons, les algues et tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à subir les conséquences. Mais dans 10 ans d'ici, les rochers, il n'y aura pas de vernis dessus, il n'y aura plus d'algues, il n'y aura plus de plancton, donc automatiquement, il n'y aura plus de poisson, parce que le poisson, lui, il ne va pas rester dans le coin, c'est pas possible. Les oiseaux, j'ai pas vu un oiseau sur la mer.
12 jours après la catastrophe, le 28 mars, 15 000 Bretons en colère défilent à Brest devant la sous-préfecture maritime. Bien décidé à faire payer le pollueur.
Quand on a vu l'ampleur de celle de la Moco Cadiz, eh bien alors là, on s'est dit, cette fois-ci, il y aura procès. On ne sait pas comment on va se débrouiller, mais on va mener une procédure et on va faire payer les pollueurs.
La mairie de Brest fait alors appel à un avocat, Christian Huglot. Il a déjà défendu la ville après les marées noires de 76. Et Maître Huglot dit aux élus, si vous voulez vraiment obtenir réparation de la société Amoco, c'est devant la justice américaine qu'il faut porter plainte.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire de l'Amoco Cadiz, du nom de ce pétrolier américain qui, le 16 mars 1978, s'échoue tout près des côtes du Finistère et laisse échapper la totalité de sa cargaison de pétrole, soit 220 000 tonnes. Et pour débriefer cette histoire tout à l'heure, je serai avec l'avocat Christian Huglot, qui a défendu à l'époque les communes bretonnes contre l'armateur du navire. En se fracassant sur les rochers à 2 km de la côte du Léon, la Moco Cadiz a perdu la totalité de sa cargaison, qui à chaque marée vient s'échouer sur les 300 km de la côte du Finistère Nord. Les Bretons, appuyés par 2000 soldats, se lancent alors dans une démarche désespérée, nettoyer les plages et les rochers à la main. Avec une échéance, l'été 1978, faire revenir les touristes, coûte que coûte. Et donc pendant 4 mois, ça pompe, ça gratte, bénévoles et militaires côte à côte. Et le 3 août, le président Giscard d'Estaing vient constater que c'est fini. Il descend sur la plage, il serre des mains pleines de mazout et il promet que l'État va demander des comptes à Amoco. Mais les élus du coin ont décidé d'agir par eux-mêmes. Ils ont créé deux comités de coordination et de vigilance. L'un pour le Finistère, l'autre pour les Côtes du Nord, qui deviendra plus tard les Côtes d'Armor. Et tout le monde se retrouve en Assemblée Générale le 31 août.
Qui est pour le dépôt d'une plainte contre Amoco à New York ?
Tous les bras se lèvent.
L'Assemblée Générale vote donc pour un dépôt de plainte aux États-Unis.
Les communes du littoral breton vont donc attaquer Amoco Corporation et c'est peu dire que le combat est disproportionné. En 1978, le chiffre d'affaires d'Amoco pèse un quart du budget de la France. Il faut être gonflé pour s'attaquer à un géant comme Amoco. Maître Huglot a trouvé un cabinet d'avocats à New York. Curtis, Mallet and Prevost. 6 mois après la catastrophe, une plainte est déposée à Chicago où se trouve le siège social d'Amoco. Un juge de la Cour fédérale de Chicago est saisi. Frank McGar, c'est lui tout seul, qui va décider. Les avocats engagés par les Bretons mènent une perquisition dans les locaux du pétrolier américain. Et ils repartent avec des millions et des millions de documents. De quoi remplir des entrepôts entiers. Et ils se mettent à les éplucher, un par un. Un travail de dingo. Et un soir, tard, l'un des juristes tombe sur une pépite.
Holy shit! Look at this!
C'était un de nos collaborateurs qui a trouvé, en épluchant, un mémorandum critique où l'Amoco a admis dans un mémorandum interne qu'ils savaient bien qu'il y avait un problème avec le gouvernail de ce navire et qu'ils ont décidé en connaissance de cause de laisser le navire partir en mer et le réparer après. Et donc, ils ont pris le risque de laisser partir l'Amoco Cadiz.
Énorme découverte. Amoco savait. Amoco a joué avec le feu. Amoco a préféré laisser partir le pétrolier vers Rotterdam plutôt que de réparer le gouvernail avant de partir. Pour des raisons bassement matérielles, envoyer l'Amoco Cadiz au garage aurait coûté 28 000 dollars par jour d'immobilisation. L'armateur américain a préféré faire des économies et c'est la Bretagne qui en a payé le prix. Évidemment, dans le même temps, Amoco envoie ses avocats en Bretagne. Ils débarquent à 50. Ils soulèvent les galets, ils sondent le sable, ils se font présenter le registre des hôtels pour mesurer le manque à gagner. Ils épluchent Ouest-France et le Télégramme de Brest pour exhumer les déclarations des élus. Avec une idée derrière la tête, bien entendu. Minimiser les dégâts. Ne pas se retrouver à payer la note.
Les défenseurs des compagnies américaines développent une contre-attaque inattendue. Ils invoquent une mauvaise surveillance des côtes, un défaut d'assistance aux pétroliers en difficulté, l'improvisation du plan Polmar. Ils demandent en conséquence que les victimes de l'Amoco Cadiz partagent la responsabilité de la marée noire. Un peu comme si après une guerre, l'agresseur refusait de payer les dommages en accusant ses victimes de s'être mal défendues.
Alors, le remorqueur et les sauveteurs ont-ils commis des fautes ? Comme pour un crime, on organise une reconstitution, un jour de tempête, pile à l'endroit où l'Amoco Cadiz est parti en sucette, avec un bateau de la même taille et un remorqueur du même type, qui commence, comme en mars 78, par tirer, jusqu'à rompre la mare. Conclusion, le naufrage de l'Amoco Cadiz était inéluctable. Il n'est pas dû aux lacunes des opérations de sauvetage. Il est dû à la panne de gouvernail. Point. L'enquête dure 3 ans. Et le 3 mai 1982 s'ouvre à Chicago le procès de la catastrophe. 40 élus de Bretagne, de tous bords politiques, hein, de droite, de gauche, peu importe, ont fait le déplacement. En tout cas au début, parce que ça va être long. 2 ans. Ce procès dure 2 ans. Pendant 2 longues années, le juge McGar auditionne les responsables d'Amoco, les pilotes du remorqueur, les juristes français. Et le 19 avril 1984, il rend sa décision. Oui, Amoco avait connaissance du défaut de construction du gouvernail. Amoco est donc responsable. Il ne reste plus qu'à fixer le montant des compensations. Le maire de Ploudalmézeau, Alphonse Arzel, exulte.
comment vous considérez ce jugement de la Cour fédérale de Chicago ?
Eh bien, je peux répondre que ce fut pour nous hier un événement exceptionnel. Que d'avoir ce résultat, c'est au-delà de nos espérances.
Alors combien ? Combien Amoco va-t-il verser aux communes sinistrées de Bretagne ?
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la catastrophe de l'Amoco Cadiz en mars 1978 au large des côtes du Finistère. Un pétrolier américain battant pavillon libérien, l'Amoco Cadiz, victime d'une panne de gouvernail, vient se déchirer sur les côtes bretonnes et laisse échapper 220 000 tonnes de pétrole brut. Les élus bretons décident d'attaquer l'armateur, la compagnie Amoco, devant la justice américaine. Et après 2 ans de procès, un juge de Chicago déclare Amoco responsable. L'armateur connaissait les problèmes de gouvernail, il les a délibérément négligés. Reste à établir le montant de l'indemnisation. Et notez que dans un instant, je vais débriefer cette histoire avec l'avocat qui a défendu les Bretons dans ce dossier, maître Christian Huglot. Et c'est aux Bretons de présenter l'addition. Il faut mettre un coût en dollars en face de chaque dépense, de chaque destruction, de chaque manque à gagner. C'est un travail titanesque. Les communes ressortent les factures de nettoyage. Les marins pêcheurs, les ostréiculteurs, les récolteurs de goémons fournissent leur bilan. On essaye d'évaluer le préjudice écologique. Le CNRS, par exemple, compte les bigorneaux. 90% de la faune marine a disparu depuis la marée noire. Et pour évaluer le manque à gagner, on se met à compter les baguettes de pain vendues par les boulangeries. La preuve que les touristes ont déserté. Et puis ensuite, on fait tourner la calculette et on arrive à 693 millions de francs. Un peu plus de 100 millions d'euros. Et maintenant, nouveau procès pour définir le montant de l'indemnisation. Il s'ouvre à Chicago le 15 avril 86, 8 ans après le drame. Et à nouveau, Alphonse Arzel et 40 élus bretons font le déplacement et chaque petit maire breton est appelé à la barre pour défendre sa cause.
Quand on était à Chicago là-bas, on allait 10 jours avant, au moins, 15. Et puis on attendait qu'on soit cité. On ne nous disait pas la veille. On nous disait le matin.
Mettez-vous à la place de ces élus bretons, venus parfois de tout petits villages, et qui se retrouvent à la barre d'un tribunal américain. Ils ont été coachés, bien sûr, autant que faire se peut. Mais peut-on se préparer à affronter le redoutable Frank Cicero, l'avocat d'Amoco ?
Étiez-vous là, sur la côte, le soir de la catastrophe ? Non ? Alors où étiez-vous ? À Rennes. Votre honneur, encore un témoignage par oui-dire. Je vous demande de l'écarter.
Au maire de Saint-Paul-de-Léon, Frank Cicero tente une photo.
Connaissez-vous ce lieu, monsieur ?
Ben oui. C'est Kérigou ?
Non, c'est Bouilénou. Ben non, c'est Kérigou. Je connais ma commune quand même. Votre honneur, cette localisation est erronée. Je vous demande de rejeter sa demande.
Après des mois d'audition, le juge McGarr rend son jugement le 11 janvier 1988, 10 ans après le drame. Et pour les Bretons, eh ben c'est la douche froide.
Décision camouflée que celle rendue par le juge Frank McGarr. Les élus bretons ne récoltent que le 1/5 des indemnités qu'ils avaient réclamées, 93 millions de francs, chiffre dérisoire au regard des 90 millions engloutis dans la seule procédure. 93 millions de francs, cela représente les factures déposées sur le bureau du juge. Pas un centime pour le préjudice écologique, encore moins pour celui concernant l'image de marque de la Bretagne. Elle avait été sérieusement ternie par la vague de mazout.
Les Bretons sont déçus, mais quand même, une compagnie américaine vient d'être jugée responsable d'une marée noire et vient d'être condamnée à ouvrir sa bourse. Pas assez, peut-être, mais elle a été condamnée et c'est une première. Alors est-ce qu'il faut faire appel ? Les Bretons n'ont pas le temps de se poser la question car Amoco fait appel. Il y aura donc un nouveau procès.
Le procès en appel s'ouvre le 12 juin 91. Il va durer plus de 6 mois. Et le 24 janvier 92, 14 ans après la marée noire, la Cour fédérale d'appel de Chicago rend une décision définitive.
C'est la victoire à Chicago du petit Astérix face au super géant du pétrole américain. 14 ans de procédure pour aboutir à beaucoup plus qu'un lot de consolation. Au total, 1,3 milliard, soit 400 millions de plus qu'en première instance. Alphonse Arzel, sénateur-maire de Ploudalmézo.
Il y a deux choses qui me font beaucoup de joie ce soir. C'est donc le résultat, alors qu'on ne s'attendait pas. Et puis c'est quand même la solidarité, la bonne entente qui a régné pendant si longtemps, qui a été payante. On va arroser ça comme il faut. Quand le jugement sera définitif.
Deux semaines plus tard, c'est définitif. L'État et les collectivités locales se répartissent le 1,3 milliard. 226 millions vont en Bretagne, le reste dans les caisses de l'État, qui reverse lui-même 100 millions aux Bretons pour couvrir les frais de procédure. Et puis, vous savez comment ça se termine en général chez les irréductibles Gaulois? Par un banquet partout à Tis. Un grand banquet qui a lieu le 22 février 92 à Port-Salle. Et pour une fois, on laisse chanter les bardes.
Raconte sur Europe 1.
Je suis avec Christian Huglot, vous êtes avocat, spécialiste de droit de l'environnement. C'est vous qui avez mené et gagné ce combat des communes bretonnes contre l'armateur du navire. D'abord, est-ce que vous êtes allé sur place au moment de la catastrophe? Est-ce que pour prendre la défense des communes bretonnes, vous avez ressenti le besoin de sentir l'odeur du pétrole?
Mais plutôt, on le sentait de loin, puisque le jour de la catastrophe... Enfin, le lendemain de la catastrophe, j'étais à Cherbourg. Et à Cherbourg, pour une expertise, on sentait déjà le pétrole.
De Cherbourg?
De Cherbourg, oui, 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 parce que c'était... le pétrole est très volatile. Sur les 220 000 tonnes, il y en a un tiers qui s'est mis dans le, qui s'est mis dans l'atmosphère, qui s'est évaporé, ce qui explique d'ailleurs que les paysans trouvaient des gouttelettes de pétrole. Hein, c'est un pétrole brut, donc c'est assez léger, c'est un Arabian Light. C'est très différent de l'affaire de l'Erika. Mais donc, puis après ça, je suis allé pour les expertises. Le lendemain, le lundi, on a obtenu du tribunal administratif de Rennes un expert sur les deux départements. Et là, on a accompagné les experts parce qu'il nous fallait absolument faire la preuve de la qualité du pétrole. Parce que vous savez, quand il y a une marée noire, les autres bateaux passent au large et s'amusent à larguer.
Donc ils en profitent pour dégazer.
Donc il fallait déjà fixer les faits et d'autre part aussi découvrir ce qu'il y avait derrière. Et vous ne pouvez le savoir que par expertise.
À ce moment-là, l'AMOCO pour vous, c'est un bateau libérien.
Oui, c'est un bateau libérien, absolument. C'est son...
Et d'ailleurs, c'est un bateau libérien.
C'est un bateau libérien qui est possédé par une entreprise qui s'appelle Amoco International, elle-même propriété de Standard Oil of Indiana.
Voilà. Donc il y a, au début, ça, vous ne le savez pas.
Non, du tout. Même dans les commissions d'enquête parlementaires, ils ne l'ont pas mis en valeur. Mais on avait des observateurs sur ce qui se passait aux États-Unis aussi. Parce qu'il y a eu un dépôt de plainte devant un tribunal local, qui n'est pas un tribunal fédéral, par des particuliers. Et ça a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait des responsabilités aux États-Unis. Alors on a engagé des avocats américains pour avoir la certitude qu'on n'avait pas de problème de délai de prescription et qu'on pouvait y aller. Et c'est pour ça que vous l'avez dit dans votre récit, la décision d'aller aux États-Unis date du 31 août. La prescription était au 16 septembre, en principe. Il fallait agir avant le 16 septembre.
Il fallait pas traîner, quoi.
Il fallait pas traîner. Et l'assignation a été rédigé sur un téléx, il n'y avait pas de fax à l'époque. On a fait un projet qu'on a envoyé aux avocats américains qui ont commencé à déposer à New York, puis à Chicago. Parce qu'on a attaqué tout le monde, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. On a attaqué le chantier, on a attaqué le remorqueur. Vous savez, dans un grand procès comme ça, il faut s'amuser...
À ouvrir large.
Ouais, ouvrir large, et puis obliger les parties à se battre les unes les autres, et vous tirer les marrons du feu, n'est-ce pas? C'est ça qu'il fallait faire.
Prenons les choses à leur début. La question des moyens mis en œuvre par l'État français et par les collectivités locales, on n'était pas du tout préparé.
Absolument pas, absolument pas. On avait eu des petites expériences du Torrey Canyon.
C'est un pétrolier qui...
1967, ouais. Pétrolier qui s'est échoué en Grande-Bretagne, et il y a eu quand même 40 000 tonnes à l'époque, on était pris au dépourvu, mais on n'avait pas imaginé une marée noire aussi intense. Et surtout, ce que vous aviez aussi, c'est que vous n'aviez pas de système de prévention, c'est-à-dire normalement le phare le système de contrôle d'Ouessant, qui a été complètement rénové après l'affaire de la Moco Cadiz, aurait pu, effectivement, s'il avait été mis en place, détecter ce qui se passait avant. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et après ça, l'État a mis des remorqueurs puissants, beaucoup plus puissants que le Pacifique.
Qui sont basés à Brest.
Qui sont basés à Brest, si j'ose dire, en raison de l'affaire de la Moco Cadiz.
Pomper le pétrole, c'était une stratégie du désespoir.
Oui, mais comment dirais-je, il a fallu d'ailleurs que le bateau soit torpillé par la marine, parce que ça a continué. Donc il y a des hélicoptères chargés de missiles qui ont descendu la Moco Cadiz pour pouvoir arriver à vider les cuves complètement.
Donc il est au fond actuellement.
Il est au fond, oui.
Il est toujours là.
Oui, il est toujours là. Sauf le gouvernail qui a été retiré pour les expertises. Il se trouve toujours actuellement en France.
La reconstitution, alors là on est dans une affaire criminelle presque. On reconstitue les conditions de la catastrophe avec un bateau semblable, avec un remorqueur semblable. Oui. Un jour de tempête, vous êtes là?
Je sais que c'est l'État qui a pris l'initiative, puisque c'est un bateau de guerre qui avait été tiré,
ouais.
De l'ordre de 220 000 tonnes à peu près. Non, c'était fait à la demande du juge éventuellement, et des parties, mais c'était... Pour nous, c'était pas intéressant, si vous voulez. Parce que, en réalité, comme l'a déclaré le juge, la cause première de l'accident de la Moco Cadiz, c'est pas parce qu'on a mal nettoyé, c'est pas parce qu'on a mal surveillé, c'est que l'appareil à gouverner casse et ce bateau est incontrôlable. Faut comprendre quelque chose de très simple pour nos auditeurs. Si vous avez un pétrolier qui veut aller à Antifer, il arrête ses machines à la pointe de Barfleur. Vous imaginez? Il est obligé d'arrêter ses machines, il y a une telle force d'inertie, et quand vous avez le courant et le vent qui se mettent ensemble, c'est fatal, vous ne pouvez rien faire.
Même un très très puissant remorqueur n'aurait pas pu sauver la Moco.
Peut-être un ou deux remorqueurs, mais là ils ont mis des, ce qu'on appelle des abeilles, et ils sont extrêmement puissants, et là peut-être qu'on n'a pas fait l'expérience avec ces nouveaux remorqueurs, mais c'est vraiment la garantie la plus absolue.
Il n'y a pas de faute du remorqueur, qui par ailleurs est un remorqueur allemand.
Contrairement à ce qu'on a dit, on a dit qu'il avait négocié, c'est ce qui ressort des commissions d'enquête parlementaire. Mais encore une fois, ce qui a intéressé le juge, c'est la cause première. Pourquoi ce bateau n'était pas navigable? D'ailleurs, une petite anecdote dans sa décision de justice, la première phrase, c'est de dire « La Moco Cadiz était comme les navires de Christophe Colomb, ils étaient construits en Espagne, ils ont tous eu un avarie de gouvernail. » Et en fait, c'était dans la conception du navire. Pourquoi? Parce que Amoco n'était pas dans le transport, ils savaient pas quoi faire. C'était pas leur métier.
Leur métier, c'était
la distribution du carburant aux États-Unis. Et quand ils ont vu que le canal de Suez était fermé, ils ont improvisé une flotte, mais ils n'étaient pas des professionnels. Ils ont fait des navires à l'économie. Il y en avait quatre, et je vous signale que un d'entre eux s'est échoué dans les années 90, s'appelait le Haven, qui a provoqué une marée noire près du port de Gênes.
Donc 2 sur 4.
2 sur 4.
Bravo, voilà. Bravo. Voilà. On va marquer une pause et se lancer dans la procédure en se disant qu'il fallait être sans doute très courageux pour s'engager dans une procédure contre une compagnie qui pèse le quart du budget de la France. A tout de suite.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire qui nous a ramené 40 ans en arrière, la catastrophe de la Moco Cadiz, un pétrolier de 220 000 tonnes de brut qui s'éventre sur les côtes bretonnes face à la station balnéaire de Port-Salle. Et je suis avec maître Christian Huglot, qui est l'avocat qui a mené et gagné le combat des communes bretonnes contre l'armateur du navire, l'américain Amoco. Il fallait quand même du courage, Christian Huglot, pour se lancer dans une procédure contre une entreprise américaine, devant la justice américaine. Vous aviez l'habitude?
Non, je n'avais pas l'habitude de procès de cette dimension. Que ça coûtait très cher et c'était très hasardeux, parce que la justice américaine, normalement, il y a un jury, c'est le peuple qui décide. Donc c'était assez aléatoire, mais vous allez voir. Enfin, j'ai deux choses à dire pour ça. D'abord, premièrement, je n'étais pas tout seul. C'est-à-dire, j'étais avec Corinne Lepage, comme on dit, à deux, on fait trois.
Oui. Bon,
ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai pris tout de suite des conseils de grands personnages du droit. Georges Védel, le président de la Cour de cassation, les professeurs Lagarde, je me suis entouré de conseils.
C'est-à-dire, dans ces cas-là, des cabinets comme les vôtres embauchent ce qu'il y a de mieux comme juriste.
Oui, on prend des consultations. On prend des consultations. Par exemple, les conventions internationales telles existaient en France nous obligeaient à faire un procès à Brest. Et qu'est-ce qu'on aurait ramassé? 70 millions de francs. Parce que c'était des conventions qui étaient comme ça à l'époque. Donc on aurait fait un procès civil qui aurait été bloqué par un procès pénal. Après ça, même si on avait gagné le procès civil, il fallait recommencer aux États-Unis pour exécuter. C'était de la folie. Mmh. Et la solution américaine s'imposait absolument.
Alors là, vous tombez sur une procédure à un seul juge. Le juge McGarr a donc tout décidé seul.
Tout seul. Parce que on peut, en droit américain, quand les étrangers font un procès en droit maritime, éviter un jury. Vous imaginez bien que les Américains sont des conservateurs, que peut-être sur la question de la responsabilité, ils auraient eu des hésitations. C'est soumis à un vote. Et puis, peut-être sur les dommages, on n'aurait pas touché d'argent ni quoi que ce soit, parce qu'ils auraient été protecteurs et un peu, si j'ose dire, chauvins. Donc on préférait tracer le problème uniquement en droit pur.
Ce juge était un bon juge.
Ah oui, remarquable. Vous savez, il y a une chose qui me restait en mémoire. Quand les Bretons sont venus assister à la première partie du procès, ils sont montés. Petit détail, d'ailleurs, ils étaient avec leur écharpe dans la rue. Et le lendemain matin, la presse américaine disait une équipe de footballeurs hollandais est venue.
Le blanc-rouge.
Et alors, bah, bref, ils sont montés. Le juge les a reçus solennellement. Il leur a dit la chose suivante. Messieurs, je sais que vous venez de loin pour une cause qui vous est chère. Je ne peux pas vous dire ma décision, mais vous serez satisfait de la juridiction américaine. C'était un homme intègre.
Le témoignage des élus bretons devant le tribunal, j'ai raconté deux témoignages. Évidemment, ils n'étaient pas du tout prêts à ça.
Non, pas du tout. Puis vous savez ce que c'est que la cross-examination? C'est quelque chose, vous avez vu des films, vous avez vu des feuilletons, et les avocats sont extrêmement présents. Les exemples que vous avez donnés sont très pertinents. Mais, comment dirais-je, il aurait fallu que ces élus soient déjà préparés dans une procédure de découverte avant le tribunal et pas présentés brutalement au tribunal. Mais ça, c'est une question de coût. Faut quand même voir aussi que Amoco a engagé dans la deuxième partie du procès des cabinets spécialisés à 60 millions de francs, à peu près, pour repasser les délibérations. Et tous les investissements sur les chemins, etc., ils ont fait un effort considérable dans la procédure de découverte qui nous avait si bien servi dans la première partie. Ça s'est retourné contre nous.
1,3 milliard, oui. Le compte y est.
On avait les assignations, on avait à peu près 2 milliards et des poussières. C'est le même résultat que l'affaire de l'Erica, c'est 220 millions d'euros, un peu de choses près.
Oui.
C'est à peu près le même résultat. Évidemment, s'il y avait eu un jury, ça aurait été autre chose. Dans l'affaire de l'Alaska, où il y a eu un jury, c'était 3 milliards de dollars. Et dans l'affaire de la plateforme, vous savez, la plateforme BP, oui, ils en sont déjà à 30 milliards, à peu de choses près.
Ah, le jury aurait été enclin à ouvrir la bourse plus facilement.
Sans problème, parce que c'est les usagers, n'est-ce pas? Donc, ils se servent eux-mêmes.
ils reprennent l'argent. La répartition de cet argent entre l'État français et les communes peut surprendre. 1 milliard pour l'État, en gros, et 226 millions pour les communes, c'est normal?
Oui, c'était pas illogique parce que c'était leur dossier à proprement parler. Ils n'ont pris, le juge n'a pris en considération que les cours d'appel, que les frais directs, les intérêts. Mais l'État avait un gros dossier de fonctionnaires et ils ont mis énormément de moyens.
Ils se sont fait rembourser des militaires, par exemple.
C'est ça, oui, complètement. Alors, chacun avait ses dossiers, mais l'État a quand même été généreux parce qu'il a remboursé quand même, il a redonné 100 millions aux Bretons, quand même,
ce qui n'était pas pour pouvoir vous payer les frais d'avocat.
Oui, mais pas les miens, je vous signale tout de suite, à ceux des avocats américains, parce que pour nous, c'était pas une opération financière, loin de là.
Ah non, on se dit que votre cabinet vit depuis sur cette affaire-là,
non? Pas du tout, c'était 6 millions pour 14 ans de procédure, les Américains. C'est 100 millions, vous calculez, ça me fait environ 40 000 francs par mois, car vous payez le loyer, la secrétaire et le collaborateur, on ne s'est pas enrichi, loin de là.
Vous n'êtes pas enrichi là-dessus.
Pas du tout, mais c'est pas le sujet. Ce que je trouve admirable, c'est la solidarité et la justice. La solidarité bretonne qui a permis de... Vous rendez compte, 14 ans de procès à s'embêter, savoir ce qui se passe à Chicago tous les jours, tenir le coup et être à un moment donné dans l'attente et dans la désespérance et finir par arriver à faire ce que les adversaires voulaient absolument nous bloquer. Ils m'ont dit, d'ailleurs, au début du procès, ça a mobilisé les Bretons, ils m'ont dit, vous êtes un bon avocat, vous avez un bon dossier, mais on vous fera crever sous les dollars. Moi, j'ai répété ça en Assemblée Générale. Les Bretons se sont levés et ont dit, à mort, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment dirais-je, c'est le triomphe quand même de la détermination.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.